Oui.
Point de voyage vers les sources que les saints anges n'accompagnent. Point de combat contre les ombres qu'ils ne combattent à nos côtés. Aucune veille dans la nuit qu'ils n'accompagnent en silence. Et point de course vers l'aurore qu'ils ne conduisent en secret. Point de prière ni de cri qu'ils ne présentent à notre Père. Même la mort la plus obscure est orientée vers la lumière. Ange de Dieu, c'est messager, veilleur de Dieu aux yeux ouverts. Emportez-nous dans la louange pour contempler le Dieu très saint. Avec nous, rendons grâce à Dieu le Père et à son Fils, dans l'unité du Saint-Esprit, depuis toujours et dans les siècles. Amen. Alors, pour la rencontre d'aujourd'hui, de tout à l'heure, là, moi, je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas comment construire, moi, cette rencontre. Parce que je me dis, on a déjà vu pas mal de sujets, mais comment voilà. Alors, j'ai cherché. Alors, j'ai essayé de construire quelque chose qui est très relatif, mais je me suis dit, voilà, les pères ont parlé, bien sûr, mais surtout dans la tradition, ils ont vu quand même les anges du côté de la liturgie. Alors, je me suis dit, essayons de regarder dans la liturgie ce qui pourrait être, pour nous aussi, quelque chose qu'on peut utiliser en même temps et qui pourrait faire partie de notre rencontre. Donc, je me suis dit, je vais essayer de trouver, pour la liturgie du ciel, la part des pères. Et puis ensuite, je me suis dit, mais il y a aussi quelqu'un qui est Marie. Comment Marie, puisqu'on dit qu'elle est la reine des anges, comment Marie est placée dans ce monde angélique, comment elle-même le vit et reçoit. Là, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai? J'ai cherché partout pour avoir des documents, mais je n'en avais pas. Donc, je me suis dit, je vais faire de mon mieux, je vais essayer de faire comme ça. Puis après, je me suis dit, bon, il y a François aussi. François avec... c'est avec la vision du séraphin, c'est quand même extraordinaire. Et puis il y a une tradition aussi après de François avec des frères. D'ailleurs, je crois que je l'ai pas rappelé encore là dans mes notes. Et puis beaucoup de frères ont reçu, peut-être grâce à François, mais ils ont vécu aussi des relations avec des anges, avec qui sont intervenus dans leur vie. Quand on lit la vie de beaucoup de frères franciscains, on voit qu'il y a... Et puis là, bien sûr. Alors là, ce serait effectivement, par exemple, tu vois, je n'ai pas pensé suffisamment. Ça me permettrait si... alors, vous pourrez continuer. Par exemple, Pio, Padre Pio, comment Padre Pio a vécu avec des anges? Bon, ben ça, c'est une question. Malheureusement, tu vois, si j'avais... J'aurais construit.
Et dans les femmes, on a Sainte Hildegarde de Bingen qui avait une relation avec le monde angélique extraordinaire.
Qui donc?
Hildegarde.
Oui, mais Hildegarde. Oui, aussi, Hildegarde.
Mathilde aussi en Allemagne.
Voilà. Voilà encore une sainte qui pourrait faire partie de notre rencontre. Ben, écoutez, ça veut dire que moi j'ai tâtonné, j'ai essayé de faire comme j'ai pu. Puis vous-même, vous continuez. L'idée, c'est de dire comment des saints ou des frères vivent aussi, eux, leur relation avec le monde angélique et comment on peut en profiter, quoi. Hein. Donc c'est une question ouverte. Alors, si vous trouvez des documents, ben effectivement, Padre Pio, par exemple, pourrait faire effectivement une réflexion pour voir comment Padre Pio... Mais pas uniquement, je me suis dit, pas uniquement une question de savoir, ben lui, il vivait comme ça, il vivait c'est très bien, hein, mais comment moi? Comment ça revient pour moi? comment ça m'aide à vivre, c'est ça la question avant tout. Hein. Comment les anges, si les anges, par exemple, je peux souffrir parce que moi, je ne les vois pas, je les aime, mais je ne les vois pas. Tant mieux pour Padre Pio qui les voit. Hein. Il a reçu la grâce, moi je ne l'ai pas. En quoi ça peut m'aider, moi? Je veux bien savoir qu'effectivement, Padre Pio, c'est formidable pour lui. Mais parfois, on fait comme ça aussi des pèlerinages ou des choses comme ça, où on s'émerveille. Il faut s'émerveiller, bien sûr, de la grâce que les autres reçoivent. Mais de temps en temps, j'ai l'impression que c'est qu'on fait des louanges qui ne touchent pas suffisamment. Quoi, voilà. Je ne sais pas si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire. Quoi. Parce que louer des gens comme ça, c'est formidable. Bien sûr, mais on peut, si je loue Padre Pio, je remercie, etc. Puis je m'aperçois que Padre Pio me donne là une petite chose que je vais pouvoir vivre. C'est de cette façon-ci que je trouve que c'est intéressant d'être en relation, de penser à nos frères. Hein. Alors, pour les anges, voilà comment j'ai construit. Premièrement, la louange, je me suis dit, je vais faire quelque chose sur la louange du ciel. La louange avant tout. Puisque les anges nous invitent à louer. Ils font partie de notre monde, du monde céleste. Ils ont une célébration, d'une certaine façon, ils ne vivent que dans la louange. Donc, il y a une célébration céleste. Et puisque nous sommes unis avec eux, ben, nous avons, ils peuvent nous aider pour trouver cette célébration, pour trouver comment ils interviennent dans une célébration céleste. Alors, c'était la première chose de la création du ciel et de la terre. Les pères dans la liturgie céleste, et puis la place de Marie dans la liturgie céleste. Alors, si vous avez des documents là-dessus, moi, je n'en ai pas trouvé. Alors, je me suis dit, je vais me débrouiller comme je vais pouvoir. Et la place de François, ben on rappelle ce que vous connaissez, mais enfin on va le rappeler quand même, ce grand événement de François avec l'ange, le séraphin quoi, qui est venu. Hein. Voilà. Alors voilà la réflexion que je vous propose. Hein. Vous voyez les limites, hein. Sans plus. Hein. Bon, néanmoins, nous sommes tous intéressés par la célébration angélique et que l'on trouve dans la liturgie eucharistique. Alors, c'est ce désir de trouver la présence angélique dans les célébrations, et particulièrement dans l'Eucharistie, qui m'a amené à voir, à chercher et à trouver, parce que je trouve que c'est trouvé quand même, dans la liturgie orientale, une grande place qui est faite au monde céleste que je ne trouvais pas dans la liturgie romaine. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi la liturgie de Saint-Jean Chrysostome. Il y a aussi, pas uniquement de Saint-Jean Chrysostome, parce que le monde arménien, la liturgie arménienne, a inspiré la quatrième prière eucharistique. C'est quand on voit la liturgie arménienne, vous n'avez pas les textes, bien sûr, et puis qu'on met vis-à-vis la quatrième prière eucharistique qu'on a célébrée, on peut la célébrer aussi aujourd'hui en même temps. Quoi, eh bien, on voit que c'est la même chose. Ils sont vraiment inspirés. Bon, après, c'est remis dans une forme qui n'est plus la liturgie arménienne telle qu'elle est célébrée. Il y a les quand vous êtes allé à Jérusalem, je sais pas.
Oui.
Vous avez vu l'endroit des Arméniens, non pas.
Oui,
il y a tellement longtemps. Alors, il y a quatre grands piliers, hein, et il y a une liturgie extraordinaire. Alors, ils vous balancent.
Ah, oui,
c'est extraordinaire. Mais ils ont... Elle est très, très belle, aussi, cette liturgie eucharistique. La présence des anges dans ce monde angélique... La présence des anges dans ce monde angélique est constante. Vous voyez bien quand on célèbre. On rappelle toujours encore des anges. Vous regardez dans la liturgie eucharistique, dans la liturgie romaine, Vous avez le sanctus. Puis après. Alors ça me peine beaucoup parce que je me dis, si en fait l'Occident a perdu un peu les anges, c'est parce que la liturgie ne l'aide pas. Si on perd le monde céleste, c'est parce qu'on fait une célébration qui est trop rapide, qui est de la terre sans plus. Moi, je suis frappé de voir quand même dans les communautés, comment je pourrais dire, pas uniquement Clarisse ou d'autres, parce que je n'en connais pas beaucoup d'autres, mais en fait, souvent, l'Eucharistie, ça fait partie de l'ensemble des prières, c'est au même niveau même que le bréviaire. C'est pas la célébration pour la célébration unique, parce que toutes les autres prières, d'une certaine façon, étendent. Les autres prières, des lots, des vêpes, tout ça, c'est fait pour... ça prend son origine dans la liturgie eucharistique. Il n'y a qu'une liturgie, mais ça c'est la vision orientale. Il n'y a qu'une seule liturgie au ciel et sur la terre. Il n'y en a qu'une, c'est celle que les anges, celle avec les saints dans le royaume, célèbrent. C'est l'unique liturgie. C'est la grande liturgie du ciel. Et alors c'est cette liturgie-là, quand nous entrons, nous, de la terre, on prend la conscience qu'on va rentrer dans cette liturgie-là. Il n'y a plus rien de la terre. Il n'y a plus rien de la terre. Dès le départ, quand on rentre dans la liturgie eucharistique, il n'y a plus rien de la terre. Puisque c'est la liturgie eucharistique, on va célébrer à ce moment-là. On a nos frères les anges qui sont là, et vous allez voir, il y a des citations de ce genre. Mais c'est pour dire l'importance, alors, de cette union entre le ciel et la terre. Si nous ne l'avons pas, nous ne pouvons pas comprendre. Il faut comprendre qu'une symphonie entre ces deux mondes du ciel et de la terre, qui n'a aussi pas d'autre but, pas d'autre sens, pas d'autre finalité que la louange de la Sainte Trinité. C'est tout. Dieu nous a créés pour ça. Il a créé des êtres différents qui sont les anges et les hommes, mais nous sommes uniquement créés pour la louange éternelle. Alors, on peut dire sur la terre, quand on dit ça, on va dire, ça va pas être marrant, on va passer tout notre temps comme ça, à chanter, à prier. Bon, mais parce qu'on ne se rend pas compte. Hein. On ne se rend pas compte aujourd'hui de ce qu'est, pour nous quand même, ici, on se rend compte quand même davantage, l'importance de la prière, de la célébration, par laquelle quand même on touche un peu quelque chose du mystère de Dieu. Et... on fait tous une expérience, c'est que quand vraiment on est dans une célébration eucharistique qui vous prend, eh bien le temps n'existe plus. Et vous vous dites, tiens, vous ne voyez pas passer le temps. C'est comme s'il n'existait plus. Eh bien déjà, on a une certaine idée de ce que peut être effectivement la louange éternelle, on est rentré dans un éternel présent, un éternel présent divin de la Sainte Trinité. Alors, c'est le projet du Conseil divin de la Sainte Trinité de créer, de créer ce monde en symphonie du ciel et de la terre. Et alors, grâce à ce regard que nous pouvons avoir de cette symphonie, de ces deux mondes, il est possible d'entrer dans la liturgie des anges en union avec celle de la terre. Bon, notre liturgie sera toujours très limitée, bien sûr, par rapport à la liturgie céleste, mais nous pouvons quand même la vivre. Et dans la liturgie des saints Jean Chrysostome, on voit combien la présence des anges. Bon, nous essaierons de voir comment Marie elle-même qui est reconnue comme étant la reine des anges, donc sa part, et ainsi celle de François, c'est ce que je C'est ce que je dis tout à l'heure. Donc, création du ciel et de la terre. Selon saint Grégoire de Nice, du IVe siècle, la vie contemplative, celle que nous vivons nous-mêmes personnellement, ne commence réellement que le jour où nous prenons conscience de la cité des anges, de leur existence, de leur présence et de l'unité du corps glorieux que nous formons avec eux. Alors, on va dire, si je n'ai pas encore pris conscience des anges, ben oui, on n'est pas encore entré dans la vie contemplative. On entre dans la vie contemplative le jour où, effectivement, nous est donné la grâce de ce monde céleste. Ah ben, pourquoi ? Parce que la vie contemplative, c'est l'effort de notre esprit, de notre prière, pour célébrer notre Dieu Trinité dans sa gloire, dans sa bonté pour nous, dans tout ce qu'il a fait dans le monde. Il n'y a que cela. Même le monde qu'on regarde autour de nous, tout vient de Dieu, tout est de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Et cette prise de conscience s'origine dans le premier verset du chapitre 1er de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu met en exécution un projet grandiose qui sort de la concertation éternelle des trois personnes divines qu'on appelle le conseil divin. Les personnes divines ont dû se rassembler et puis entrer, discuter. On va faire quelque chose de nouveau, comme il faut. Comme en ce moment, Dieu créa. Il est en train de créer des mondes. Il est en train de créer des univers. Il ne fait pas... Il ne fait rien de... Continuellement, il est une source infinie d'existence et de création. Nous sommes un moment dans cette création. Regardez, quand on voit le cosmos, quand on voit tout ça, on peut quand même prendre conscience d'un Dieu qui est absolument au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, quoi. Donc, c'est un projet qu'il a eu, qu'il a réalisé, d'unir le ciel et la terre, non pas le ciel d'un côté et la terre de l'autre, mais le ciel et la terre. C'est-à-dire que la terre ne peut pas se passer du ciel, et le ciel, lui aussi, est lié avec la terre. Cette unité de la création, c'est l'Église. Alors ça, c'est autre chose. C'est le grand mystère de l'Église. Et ce projet, nous lisons dans la Révélation, que Dieu l'avait caché, même aux anges, comme le dit saint Paul, et il ne sera révélé qu'à l'heure de l'incarnation. Et c'est l'Église, avec ses théologiens, qui en manifestera l'extraordinaire amour de notre Dieu, qui en fait la matière même du monde. Tout est de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est un... comment c'est le nom là ? Un panthéisme. C'est pas un panthéisme, mais c'est un pan christologique. C'est tout à fait autre chose. C'est une réalité que dans toute chose, comme les poètes nous invitent à regarder toute chose par laquelle ces choses-là disent Dieu. J'aime beaucoup Claudel quand il dit ça. Regardez une fleur. Eh bien, si vous regardez une fleur bien, au fur et à mesure que vous la regardez, que vous entrez comme ça, vous ressentez qu'il y a quelque chose en elle, qu'il y a une œuvre, qu'il y a une œuvre divine. Et alors, en la regardant, vous sentez que ça, votre regard s'épanouit, s'élargit. Et puis voilà que d'un seul coup, vous ressentez tout un monde de création et Dieu est là. Vous ressentez un mystère de présence divine dans les choses. L'Église est l'œuvre du Christ, mais elle naît de la volonté amoureuse, bienfaisante, gracieuse du Père des miséricordes, de ses propres entrailles d'amour. Dieu a créé par amour. Et le Christ a donné son corps à l'Église. Il a fait d'elle le lieu où se crée la nouvelle humanité. L'Église nous y introduit par le sacrement du baptême, elle nous nourrit par ses sacrements, de façon à ce que chacun puisse entrer dans la louange éternelle. Voyez l'importance très grande de l'Église. L'Église, c'est le corps du Christ. C'est la plénitude de tout ce qui est. Et ainsi, le Christ se trouve une réalité nouvelle. C'est saint Paul qui dira le réel, ce qui est réel. Qu'est-ce que c'est ? Le réel, c'est le corps du Christ. Et on comprend. On comprend dans cette vision-là. Par lui, par ses deux natures, divine et humaine, dans son hypostase unique, l'hypostase du Christ, c'est le Verbe. C'est le Verbe, il est la personne du Christ, c'est le Verbe incarné. Donc, il unit déjà en lui et la réalité humaine qu'il a prise et sa réalité divine. Il est déjà le lieu de la présence de la Sainte Trinité. Il est l'Église. Son corps est l'Église. Et c'est là-dedans que nous vivons par grâce et nous y entrons par le baptême. Nous sommes nourris après de son corps et de son sang. Pourquoi on est dans l'Eucharistie? Sinon pour recevoir ici, c'est la réalité, c'est la vérité. Quand on entre dans l'Eucharistie, on est en train de dire l'absolu de la vérité, l'absolu de la réalité. Il n'y a rien d'autre. Alors, bien sûr, ça se monnaie aujourd'hui uniquement par nos moyens à nous, mais il faut, c'est cette conscience que nous avons quand nous rentrons, c'est à ce moment-là la célébration du royaume. Et l'Eucharistie devient la célébration de cette plénitude du royaume. Aujourd'hui, dit saint Paul, nous ne voyons ces réalités effectivement que dans un miroir qui les reflète. De ce que c'est uniquement, bien sûr, dans la foi que nous célébrons, ce que nous ne voyons pas, mais qui nous est présent, en entrant dans le sanctuaire pour célébrer l'Eucharistie du ciel et de la terre, là, je fais un effort, chaque fois, de me mettre en présence du monde angélique. C'est pas évident, hein. C'est pas évident de rentrer, de dire, par exemple, vous célébrez, puis il y a autour de vous, là, il y a des anges, hein. Qui est à ce moment à court. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et les pères ont cette conscience. Au moment où commence l'Eucharistie, le ciel s'ouvre d'une certaine façon, les anges viennent. Et la conviction que l'on a à ce moment-là, c'est qu'on participe réellement déjà dans le monde nouveau. L'Apocalypse nous dit clairement: toute créature dans le ciel, sur la terre et sous la terre et sur la mer, l'univers tout entier. Je l'entendis s'écrier à celui qui siège sur le trône, ainsi que l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire, la bénédiction, la puissance dans les siècles des siècles. Et les quatre vivants se prosternèrent pour adorer. Et voici que je fais l'univers nouveau. Je suis l'alpha, l'oméga, le principe, la fin. Celui qui a soif, moi, je lui donnerai la source de la vie gratuitement. Voilà notre appel. Voilà notre existence véritable. Alors, comment les pères ont-ils compris la participation angélique à la louange? Alors, j'ai essayé de trouver parmi les pères des citations qui nous font voir qu'effectivement, les pères ont compris, comment ils ont compris cette participation angélique à la louange. Alors, premièrement, c'est à partir de la Genèse qu'ils ont lu la création angélique. Une hymne liturgique dit ceci. Alors, je vais essayer de faire que des citations. Voilà ce que dit donc une hymne liturgique. Le Saint-Esprit, ayant d'abord conçu les ordres angéliques, à constituer, pour autant que cela nous soit accessible, des miroirs de la lumière d'origine divine qui reçoivent l'éclat du luminaire au triple soleil. Alors donc, cette vision-là, c'est que, dès le départ, ce monde angélique est illuminé par la gloire de Dieu. Voilà. Donc si on rentre dans ce moment, dans cette relation avec le monde angélique, on va en profiter. Saint Augustin dit, les anges auraient été créés le premier jour, que la lumière soit. C'est Dieu lui-même qui est la lumière sans déclin. Et le Christ est lui-même la lumière de la lumière. On dit lumière née de la lumière, hein, dans le credo. Il est la lumière incréée qui a jailli au Tabor, dans l'exil, dont les disciples ont pu reconnaître sa gloire, hein, au moment où ils montaient au Tabor avec lui. Et c'est cette lumière incréée qui a participé, qui a transformé le Christ, qui a fait voir son être véritable. Pour mieux saisir ce que sont ces lumières qui constituent le monde angélique, il faut recourir à la sagesse, dont le mystère est d'être une émanation de l'être divin, une effluve de la puissance de Dieu, une émanation toute pure de la gloire du Tout-Puissant. Elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité de Dieu, une image de sa bonté. La question de la sagesse est une question très très importante, hein, parce que nous sommes appelés nous-mêmes à vivre de la sagesse, donc de recevoir, c'est par la sagesse que nous recevons toutes ces illuminations. Et la sagesse, c'est l'union en nous entre dans l'intelligence et dans l'amour. C'est à ce moment-là où nous aussi, nous unissons dans notre être une vie intellectuelle qui est fondée dans l'amour et qui est au-delà encore de la vie intellectuelle, qui est la sagesse, c'est-à-dire l'approche du mystère divin lui-même dans tout ce qu'il a, comme le dit la sagesse, dans cette révélation que l'on trouve en Sagesse 7:25, qui est donc un reflet à lumière éternelle qui vient nous illuminer. Les fondements de l'univers viennent de la sagesse, qui est au-delà du temps, hors du expression de la vie éternelle, et qu'on peut référer alors au Saint-Esprit, qui unit le Père au Fils dans un lien d'amour éternel. Elle est vie, elle est incréée, elle est propre à la Sainte Trinité. Elle peut donc, par contre, sortir, se manifester, et alors la création qui apparaît reçoit l'existence. Elle est une création image de la divinité éternelle. Et c'est dans cette lumière-là qui entre dans le monde et qui crée les lumières secondes que sont les anges et nous-mêmes, qui sommes appelés à devenir des lumières humaines dans le Christ Jésus, lui qui est lumière, la lumière et la splendeur du Père. La sagesse, elle est à la fois créatrice, elle est celle qui construit le monde. Donc elle est pleine, elle a déversé dans le monde toute la lumière incréée. La gloire de Dieu que la sagesse a modelé dans ses deux mains, si on peut dire, de sorte que nous, quand nous sommes devant une fleur, quand nous sommes devant un ciel étoilé, quand nous sommes devant une montagne, quand nous sommes devant, etc., eh bien, nous percevons, si nous regardons avec des yeux ouverts dans le mystère, nous percevons l'œuvre de la sagesse. C'est la sagesse qui est là. Elle a jeté toute la beauté de Dieu. Elle l'a exprimée partout. La sagesse a créé de ses mains divines en prenant tout ce qui appartenait à Dieu pour créer ce monde. Donc l'importance de la sagesse à nous-mêmes de pouvoir ensuite vivre dans la sagesse pour approcher ce mystère de la présence même de Dieu dans les choses. Le monde angélique, donc, fait partie de cet univers-là, puisqu'on dit le ciel et la terre. Alors cette réflexion, maintenant, va nous conduire à la vision des pères de l'unité des deux mondes, à la façon dont ils participent ensemble à la louange de la Sainte Trinité. Alors voyons comment. Alors les nombreuses citations cherchent à exprimer la participation humaine dans la célébration eucharistique. Alors c'est ce que je vais essayer de montrer en prenant quelques exemples. En voyant, alors, quand une assemblée, voilà ce qu'un père dit, quand une assemblée liturgique va commencer, en voyant une assemblée spirituelle eucharistique, un père, je me souviens, ah oui, c'est Saint Sévère d'Antioche, dans son homélie 90, il écrit, en voyant une assemblée spirituelle eucharistique, nous, voilà, quand on va célébrer l'Eucharistie, j'ai cru voir non pas seulement des hommes, mais aussi une réunion des ordres célestes qui, après s'être mêlés et être entrés parmi nous d'une manière invisible, mais présente, nous entourent extérieurement et complètent le troupeau unique et parle à l'assemblée de l'Église, à savoir des anges, des archanges, des puissances, des dominations, tout ce qui a été énuméré par saint Paul lorsqu'il écrit, tout ce qui a nom et qui peut se nommer, non seulement dans ce siècle-ci, mais encore dans le siècle à venir. Donc, la vision de saint Sévère d'Antioche, c'est que, effectivement, au moment où le troupeau se réunit, c'est-à-dire nous, notre assemblée, se constitue, ben on va voir ça tout à l'heure quand on va célébrer l'Eucharistie, à ce moment-là, il a l'impression que l'Église, que le monde céleste, les dominations, puissances dominations, celles-là, viennent compléter le troupeau de la terre. Le monde angélique et hiérarchique, tu nous l'as dit, on lit dans l'angéologie judéo-chrétienne que les milices du ciel, groupées par degrés, s'avancent. Oh, ça sert merveilleux, comme ça. Ils s'avancent, ils s'inclinent devant le Seigneur et ils se retirent en allant à leur place avec joie et allégresse dans une lumière sans mesure. Alors là, vous avez le ciel qui est en train de célébrer. Alors, puisqu'il y a toutes ces liturgies, ces hiérarchies célestes, alors on les voit les uns par les autres qui viennent vers le trône céleste. Alors, ce sont les archanges qui arrivent, voilà, on les voit. Ils se mettent, et puis ils voient leur place. Et le monde se constitue pour la célébration. Pour la célébration angélique. Voilà une très très belle vision des choses. Saint Irénée écrit, le monde est entouré de sept cieux dans lesquels habitent des puissances innombrables, anges et archanges, servant le Dieu tout-puissant et créateur de toutes choses. Et Dieu est glorifié continuellement par son Verbe, qui est son Fils, et par le Saint-Esprit, qui est la sagesse de toutes choses. Les puissances de ce Verbe et de cette sagesse, puissances qui sont appelées chérubins, séraphins, glorifier Dieu par des chants ininterrompus, et tout ce qu'il y a d'être existant dans les cieux rend de gloire à Dieu, le Père de toutes choses. Donc c'est une liturgie qui n'a jamais de fin. C'est la liturgie donc qui s'adresse à la fois au Père, au Fils et au Saint-Esprit, la liturgie de la Sainte Trinité. La liturgie angélique se trouve ainsi répartie en deux espaces complémentaires, d'une part, la liturgie visible des hommes, la nôtre, et d'autre part, la liturgie invisible des anges. Et saint Jean Chrysostome écrit, « Là-haut, les légions d'anges récitent la doxologie, ici-bas, formant des chœurs dans les églises, les hommes récitent à leur imitation la même invocation. » Alors, vous savez, la doxologie, c'est « Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit ». Donc, là-haut, les légions récitent cela, et sur terre, nous unissons nos voix, nous-mêmes, avec eux, quand nous disons la doxologie. Là-haut, les séraphins font retentir l'hymne trois fois sainte. Ici-bas, de la foule des hommes, monte la même hymne. Tout ensemble, que les êtres célestes et les êtres terrestres forment une assemblée de fêtes. Donc c'est tout cet ensemble, êtres célestes et êtres terrestres, forment donc une assemblée de fêtes. C'est une action de grâce, une seule allégresse, un seul cœur joyeux. Les hommes et les anges se retrouvent dès maintenant et dès ici-bas, dans l'espace cosmique de la liturgie, laquelle est à la fois une anticipation et une image de leur compagnie eschatologique et métacosmique. C'est-à-dire, alors, cela nous interpelle de la façon dont nous vivons même notre propre participation à la liturgie. On a peut-être à beaucoup travailler pour grandir dans cette vision-là et dans cette conscience, même si on l'a pas comme saint Jean Chrysostome ou d'autres qui nous disent, mais à notre mesure que vraiment nous entrons à ce moment-ci dans le monde créé par Dieu, dans cet univers où déjà le monde créé nous dit la beauté, la gloire de Dieu qui s'y reflète, et que voilà, nous allons faire ce que nous sommes avant tout, et ce pourquoi nous avons été créés par la Sainte Trinité. Théodore de Mopsueste écrit « Chaque fois qu'est accomplie la liturgie, nous obtenons la faveur, par le manger et le boire, de participer véritablement aux biens à venir. » Donc, c'est en nous nourrissant de l'Eucharistie. « Il nous faut donc nous représenter en notre conscience » que nous sommes comme qui est au ciel, mais bien sûr par la foi. C'est la vision des réalités célestes que nous esquissons en notre intelligence, en considérant que le Christ qui est au ciel, qui est mort pour nous, qui est ressuscité, qui est monté au ciel, est lui-même maintenant encore dans le moyen de ses figures immolées, de sorte que, considérant de nos yeux par la foi ces souvenirs qui s'accomplissent maintenant, nous voyons encore qu'il meurt, ressuscite, monte au ciel, ce qui est jadis acquis, ont maintenant encore lieu pour nous. Donc, dans cette célébration, comme il dit, la vision que nous avons et la foi que nous avons dans le Christ Jésus, et qui est effectivement mort et ressuscité, et glorieusement là. Eh bien, la liturgie, elle est là. Par la liturgie, nous, ce Christ-là, il n'est pas du passé, il est là, il est présent. Et c'est en lui que nous vivons ces réalités. C'est un même drame qui se joue sous une double scène. Ça, c'est une bonne chose, ça. La scène invisible du monde angélique qui escorte le Christ prêtre. À cette scène-là invisible répond la scène visible de la création locale. Les hommes composent les icônes mystiques des chérubins, d'où le chant. Alors, ce chant qui est au cœur aussi de la liturgie eucharistique orientale, nous qui, dans ce mystère, représentons les chérubins, déposons maintenant tous les soucis du monde, afin de recevoir le roi de chair, escorté par les puissances célestes. Donc, en fait, dans cette liturgie, cette vision que nous sommes, en fait, des icônes mystiques des chérubins, que nous sommes des icônes parce que, en ce sens que, comme l'icône représente la réalité, nous sommes à ce moment-là associés à ce team des chérubins et nous entrons avec eux. Hein, déposons-nous de toute préoccupation terrestre pour rentrer dans ce mystère. Donc nous avançons comme ça en procession vers... d'ailleurs, même les processions, normalement, devraient avoir toujours ce sens au sein de la liturgie. Grégoire le Grand note l'importance du prêtre et du diacre, frère, dans la célébration. Qui donc, parmi les frères, les fidèles, pourrait douter qu'à l'heure précise de l'immolation, les cieux s'ouvrent à la voix du prêtre, qu'à ce mystère de Jésus-Christ, les cœurs des anges sont présents. Le Très-Haut s'unit au Très-Bas, le terrestre au céleste, le terrestre et le céleste se rejoignent, le visible et l'invisible se fondent en un. Donc là, dans la célébration eucharistique, c'est l'unité donc qui se réalise. Les diacres, selon Théodore de Maupassant, et il écrit, il faut estimer que c'est une certaine image de la liturgie des puissances invisibles que représentent les diacres. En souvenir des anges qui, pendant la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, à chaque instant, venaient et se tenaient debout, les diacres, eux aussi, l'entourent et agitent les éventails. Ils offrent une sorte d'honneur et d'adoration au corps déposé qui est saint et redoutable. Donc, dans cette liturgie, la part... j'étais heureux de trouver quand même, parce qu'on ne le dit pas très, très souvent, quoi, cette part...
Vous avez pensé, vous avez demandé si les diacres peuvent tenir la place des
Il aurait bien fallu. Il fallait mieux éviter.
Il t'aurait offert des éventails.
Eh bien, l'éventail, moi je l'ai vu ça. Je l'ai vu, c'était des diacres, effectivement. J'ai vu dans la liturgie. Alors, il y a un bâton d'abord comme ça, et puis un grand cercle comme ça, avec tout un tas de petites clochettes là.
Ah, oui.
Bon. Et alors, au moment du Sanctus. C'est les diacres, et bien ça, c'est un office, hein, vraiment, ils sont de chaque côté.
Et où est-ce que
et puis alors.
C'était à Jérusalem ou en France?
Non, mais en France, je l'ai vu au Sacré-Cœur. Tu me fais rappeler, parce que
oui.
C'était magnifique.
Oui, c'est magnifique. Bon, c'est des signes de la liturgie. Bien sûr, c'est des signes comme de la liturgie. Mais alors, c'est vraiment étonnant, quoi. Hein. Et à ce moment-ci, effectivement, le Sanctus, ben, c'est. C'est plein, ça fait de la lumière, ça fait des, ça. Au moins, ben, ils sont là, quoi, que voulez-vous. Mais on a besoin de signes. Quand vous êtes dans une célébration comme ça, et il y a plein de signes comme ça, de l'encens, de la lumière, des chants, vous êtes pris.
C'est pas... On n'a plus d'enfant de cœur maintenant, parce que quand on était enfant de cœur,
oui.
On faisait plein de choses. Mmh. Enfin, moi, j'y étais 10 ans en fin de cœur.
Oui.
Eh bien, on était contents.
Oui, mais c'est dommage.
Et on participait. On voit bien que les enfants ont besoin.
Très heureux.
Très important, les enfants.
Très heureux.
Ouais. Alors, je vous rassure, on en a beaucoup à Paris et dans les banlieues des enfants.
Ah, oui.
Je vous rassure.
Bon.
Il y a beaucoup d'enfants. Ils ont même des petites capes blanches, des annonces, on dirait des anges. Franchement, ça réconforte quand même. Il faut lui dire que ce n'est pas... C'est juste que dans les campagnes, il y a déjà plus grand monde, alors les enfants, ils disent
c'est... Moi, j'ai été habillé en ange.
Sinon, c'est pas possible.
Pour une procession, quand j'avais 5-6 ans,
tout à fait.
Pendant la guerre.
J'avais des anges de toute taille.
Oui.
J'avais une cousine qui était comme ça. C'était l'ange.
Alors. Bon, bien sûr, Ce n'est que quelques petites citations que j'ai trouvées, mais bon, c'est bon. Alors maintenant, eh bien, maintenant, on va demander à la Vierge Marie, notre mère, comment, Marie, comment, toi qui es notre mère, tu participes à la louange avec les anges. Alors l'hymne marial eucharistique nous dit l'essentiel de la grâce que Marie a faite en faisant que la grâce qui a été faite à Marie en faisant d'elle la reine des anges. Cet hymne que nous prenons, que nous disons toujours dans la prière eucharistique, plus vénérable que les chérubins, plus glorieuse que les séraphins, toi qui sans perdre ton intégrité a enfanté le Verbe de Dieu, tu es vraiment mère de Dieu. Eh bien, c'est cette importance, parce que elle nous indique la place de Marie dans le monde céleste, en même temps que sa place dans le mystère de l'incarnation, qui en fait en est la source. Dieu l'a permis à créer, et ça c'est toute la louange que l'Église adresse à Marie, et cet étonnement qui a fait d'elle cette femme qui était une femme humble, silencieuse, et qui est devenue dans le ciel en ce moment, la reine des anges, la reine du monde, à la droite du Seigneur Jésus. C'est même, quand on a cette vision des choses, qu'on en est quand même très très ému. La louange que le peuple chrétien ne cesse d'élever à Marie doit dépasser une vision, une dévotion qui est nécessaire. Bon, on a une dévotion, un chapelet, etc., et c'est absolument nécessaire. Mais il faudrait aller plus loin et essayer de nous situer dans le contexte d'un combat eschatologique. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les forces des ténèbres sont déchaînées. Alors comment Marie est dans ce combat eschatologique avec nous pour combattre les forces terrestres, les forces de ténèbres? Eh bien, j'ai repris le chapitre 12 de l'Apocalypse et il me semble que c'est là que trouvons Marie au cœur du combat eschatologique. Et ce chapitre va nous servir pour situer Marie plus précisément dans ce combat avec le monde angélique. Eh bien, tout d'abord, voici comment les livres liturgiques et les hymnes chantent à leur façon la place de Marie dans le mystère de l'incarnation. Puisque le combat eschatologique va commencer par ce fait que Marie occupe la place première, et que les anges mauvais vont se déchaîner contre elle en premier lieu, puisqu'elle est la responsable en fait de leur drame à eux, puisqu'elle a accepté de nous donner le Christ, et que le Christ est en train de détruire, est venu pour détruire leur empire. Donc Marie, on comprend que le monde démoniaque est forcément contre Marie d'une façon imposante. Ils en ont très peur, d'ailleurs. Alors là, d'abord l'ange Gabriel, qui vient annoncer le dessein éternel de Dieu, voilé même aux anges. Il est le seul à recevoir le secret divin. Le grand mystère, jadis inconnu aux anges et caché au siècle, est révélé à toi seul, Gabriel, et tu le confies à celle qui seule est pure. Ces citations-là, c'est des citations simplement de la liturgie. Hein. Ce grand secret, ce mystère d'avant les siècles, révélé aujourd'hui, c'est le Fils de Dieu qui devient Fils de l'homme. Dieu devient homme pour rendre Adam Dieu. Que la création se réjouisse, que la nature jubile, car l'archange se présente avec crainte à la Vierge et lui dit « Réjouis-toi ». Contraire à la tristesse, ô notre Dieu, toi qui t'incarnes dans les entrailles de ta miséricorde, gloire à toi. Voilà une une citation de la liturgie encore. Hein. Ô notre Dieu qui t'incarne dans les entrailles, par les entrailles de ta miséricorde, voir à toi. Encore, ô miracle, Dieu parmi les hommes, celui qui ne peut être contenu habite le sein d'une femme. L'Éternel entre dans le temps, la conception est merveilleuse car elle est virginale. Dieu s'anéantit, s'incarne et formé alors que l'ange annonce l'enfantement à la toute pure. Réjouis-toi, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Il a une grande miséricorde. La joie de Dieu emplit tout le ciel qui vient acclamer sa reine. Et voici que les anges servent leur reine à son divin enfantement. Et encore une citation. Les ordres célestes assistent en serviteurs à ton enfantement, Marie. Ils sont étonnés que tu sois devenue enceinte, sans semence d'homme, car tu es pure avant et après la naissance. Eh bien, ces quelques chants, de ces quelques chants, nous retenons l'émerveillement et l'étonnement des anges devant le choix de Dieu de faire de Marie la mère de son Fils. Ce choix qui la laisse humaine et en même temps qui lui donne une place centrale dans le mystère de l'incarnation, en l'élevant au niveau des puissances angéliques dont elle sera la reine à l'heure de son assomption. Et c'est parce que Dieu a fait d'elle la mère de son Fils qu'elle a sa place dans le monde angélique et qu'elle pourra intervenir avec les anges dans le salut des hommes. En tant que mère de Dieu, elle est la plus exaltée, considérée comme une reine des cieux. Une hymne liturgique chante encore sa place à côté de son Fils. Ornée d'un vêtement d'or, la reine est maintenant à côté de son Fils roi. Elle est incomparablement plus exaltée que les anges qui s'écrient « Gloire à toi, puissance, ô Christ, gloire à ta puissance ». Tous ces chants d'allégresse sont donc importants pour nous permettre de situer Marie au cœur du combat eschatologique comme une pièce maîtresse qui éclaire le sens de l'histoire humano-divine. C'est donc à partir de son incarnation, du choix que Dieu a fait d'elle, qui fait la mère de Dieu, c'est par cette place-là que Marie peut effectivement intervenir dans le combat eschatologique et être une pièce maîtresse de ce combat eschatologique. Il faut, alors, pour essayer d'approcher, je crois que c'est une lecture du chapitre 12 de l'Apocalypse qui va essayer de nous permettre d'entrer dans le mystère du combat eschatologique et du salut du monde en compagnie du monde angélique, dont Marie est donc centrale, à sa place centrale. Saint Jean a la vision d'une femme. Alors, vous connaissez très bien ce texte du chapitre 12 de l'Apocalypse. Il a la vision d'une femme qui apparaît dans le ciel, enveloppée de soleil. La lune est sous ses pieds et 12 étoiles couronnent sa tête. Elle est enceinte et elle crie dans les douleurs de l'enfantement. Cette vision situe Marie au cœur même du combat. Puisque le ciel et la terre sont unis, notre histoire humaine est marquée par les événements qui ont lieu dans le ciel. Eh bien, le drame a commencé dans le monde angélique. Et nous en sommes, nous, simplement que les victimes. Tout s'est passé à l'origine comme une espèce de tsunami qui aurait pu être fatal si Dieu n'avait pas pris en pitié notre humanité au matin de sa vie. L'ange Satan, qui porte aussi pas mal d'autres noms, et on verra cet après-midi, parce que je voudrais faire une réflexion sur les mauvais anges, était un ange certainement élevé dans la hiérarchie angélique. Et la révélation nous dit qu'il est à l'origine du conflit que va connaître le monde angélique quand il va rompre avec Dieu, entraînant à sa suite une foule d'anges qui deviendront des démons. Eh bien, ce conflit est, semble-t-il, la décision que prend Dieu de créer le monde humain avec sa dignité propre en union avec le monde angélique, par un orgueil de par son orgueil de pouvoir, de devoir reconnaître un monde inférieur à ses yeux, Satan s'oppose à Dieu. Nous avons vu que c'est une des raisons peut-être pour lesquelles donc Satan, l'ange Lucifer, le grand ange, a chuté. Tout change, tout a changé dans l'histoire, quand Dieu a décidé l'incarnation de son Fils. Et c'est peut-être ça qui a fait basculer, en fait, tout le monde angélique. À ce moment-ci, le monde angélique était en face d'une question qui, pour lui, était énorme. Une nouvelle création, il fallait maintenant aussi prendre en considération une autre création que Dieu était en train de faire, qui est, à ses yeux angéliques, qui n'est plus un pur d'esprit, mais qui est aussi l'homme, c'est-à-dire sa chair et son esprit, une autre réalité. Donc une réalité beaucoup moins, on aura moins digne qu'eux-mêmes. Alors s'abaisser vers le petit, c'est jamais facile, même au niveau humain. Alors on comprend que s'abaisser pour des anges qui ont une gloire extraordinaire, pour voir un pauvre type qui est là maintenant, qui est l'homme, et que cela... Et alors, le refus, ben il est le refus, en fait, de Dieu qui s'incarne pour réaliser cette humanité. Et en même temps, il est la cause d'un mari qui va l'accepter. Et automatiquement, non seulement il y aura un refus de l'homme, mais il y aura surtout et avant tout un refus de Marie. Parce qu'elle a dit oui, elle a accepté l'incarnation du Fils. Et alors, cela déchaîne une guerre dans le ciel. Et Saint-Michel Archange, chef des armées célestes, va donc intervenir pour chasser Satan du ciel. Et les démons sont précipités sur la terre où va se poursuivre le combat entre les hommes. Notre combat eschatologique, il est le résultat d'un combat céleste, avant d'être notre combat à nous. C'est le combat qui a eu lieu dans le ciel et qui aussi se propage sur la terre. Il semble occupé... ils sont précipités sur la terre. Où va se poursuivre ce combat contre les hommes? C'est vraiment une question. Les pères ont parlé des régions sublunaires. C'est difficile à penser qu'effectivement, on verra aussi en ce moment, on dit le monde préternaturel. Bon, ça, on verra ça cet après-midi. Bon, il semble être là, et c'est là que ce combat, qui à partir de ce lieu-là, de leur état-major, ils envoient des anges, des démons, pour combattre contre cette race humaine qu'ils ne peuvent pas accepter. L'incarnation est donc la cause du combat sans merci que va livrer Satan contre les saints du ciel, avec Marie au centre. Marie est la femme qui apparaît dans la gloire céleste, signe de la victoire finale. Vêtue de lumière, couronnée de 12 étoiles, symbole des 12 tribus d'Israël, symbole des apôtres, mais aussi de tous les anges dont elle est elle-même la reine. Et cette vision nous fait penser à l'apparition de Marie à Fatima. Alors, la réponse de Satan, c'est de tuer l'enfant. Hérode s'en fera lui aussi. Il cherchera lui aussi à le faire. Satan et les siens ont déjà perdu irrévocablement leur place dans les cieux. Ils le savent. L'archange Saint-Michel les a déboutés. Ils ne sont plus dans le ciel. La haine va se déployer contre tout ce qui résiste à leur volonté de destruction. Et en premier lieu, à l'Église, qui est le dernier rempart indestructible, qui est la forteresse que Satan ne cesse de vouloir investir. Est-ce qu'il est entré dans les rouages de l'Église ? L'Église institution, représentée par Rome pour nous, n'a pas cessé de faillir au cours des siècles. Et le pape Léon XIII avait donné un exorcisme qui n'est malheureusement plus célébré depuis Vatican II. Et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, aussi l'Église s'est fragilisée. Puisque le combat, c'est un combat eschatologique, c'est pas n'importe quoi. Et Satan triomphe aujourd'hui, on le voit bien dans tous les scandales qui ont lieu. Marie est le rempart inébranlable. Elle est la reine des anges, établie dans la gloire céleste. Quand Saint Michel combat avec ses anges, Marie, elle, combat par son intercession. Elle combat dans le ciel par sa puissance de sa maternité auprès de son fils. Dans tous les exorcismes, on essaie de dire « Marie, intervienne auprès de ton fils, je t'en prie, libère cette personne ». Elle aide l'Église par sa prière. Elle invite les chrétiens à lutter par la sainteté de leur vie. Avec Marie, le combat eschatologique a une dimension mystique qui est différente de celui de l'Église de la Terre. On ne peut pas isoler Marie de l'Église, dont elle est le centre, mais on doit reconnaître que dans le combat eschatologique, Marie apporte l'aide nécessaire des puissances célestes, ce que l'Église n'a pas. S'il n'y avait pas Marie, on n'aurait pas la possibilité de résister comme on peut résister dans le combat eschatologique contre les forces du mal, puisque Marie apporte à la brigade dans son... Elle apporte le monde angélique avec elle, la femme couronnée d'étoiles, qui apparaît dans la gloire céleste. C'est vraiment là qu'on peut dire que Marie, avec toute son intercession, sa place de reine du ciel, de reine des anges, qui intercède. Je vous assure que ça, c'est quelque chose qui se vit, enfin, pour les exorcistes, c'est quelque chose de vraiment très, 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 très important. C'est une réalité vraiment très concrète. Que Marie intercède avec les puissances célestes, quoi. Dans ce combat qui a lieu au moment d'un exorcisme, c'est aussi un combat eschatologique qui a lieu, hein, c'est un combat de ce genre. Hein. Et je crois que c'est à ce moment-là que peut-être que le monde chrétien, le peuple chrétien, ne prend pas suffisamment compte du monde angélique. Marie, donc, est la femme revêtue de la gloire. Elle est la reine des hommes, mais elle est la reine du ciel. En même temps, elle a cette place. C'est le Seigneur lui-même qui lui a confié cette mission, qui l'a mise lui-même au centre. Et la gloire, en célébrant la gloire que Dieu le Père lui a donnée par sa maternité virginale, c'est Dieu lui-même que nous remercions et adorons dans la création du ciel et de la terre. On est, bien sûr, on ne fait pas de confusion. On sait que Marie est toujours une femme, qu'elle appartient toujours à notre condition humaine. Ça, nous le savons bien. Mais alors, comment se fait-il qu'une femme comme ça, simple, de rien du tout, d'une certaine façon, est aujourd'hui dans la gloire infinie? Et même insoutenable de Dieu. Voilà, c'est le... Et on comprend que Marie soit au cœur de ce combat eschatologique. Il y a François après, comment il a participé.
Bon. Une question.
Comment?
Je vais poser une question. Question.
Oui, ah, pardon, excuse-moi.
La question. On parle des 12 étoiles de la couronne de Marie qui symbolise les tribus d'Israël. Ces étoiles.
Et aussi les apôtres.
En quoi, oui, les tribus d'Israël interviennent dans le rôle de Marie dans ce combat eschatologique? Ça a un sens, ces étoiles, forcément.
Oui, oui, oui. Mais on dit que ce n'est pas uniquement de l'Ancien Testament, on dit que ça représente aussi les 12 apôtres.
Oui,
c'est des symboles. Là, là, on est dans des symboles. Là.
Est-ce que ça veut dire qu'ils ont aussi un rôle, que ce soit les tribus d'Israël, que ce soit les 12 apôtres, pour Marie?
Ben, écoute, tu poses une très belle question, parce que peut-être, moi je ne sais pas si on peut répondre, hein, comme je vais répondre, après, je ne sais pas, hein, mais je crois que Marie aussi est au cœur de l'écuménisme. Marie a certainement aussi un rôle par rapport à Israël, c'est-à-dire par Israël. La prière pour l'unité de l'Église passe aussi par Marie. Voilà, je pense que si on en fait, peut-être on diminue trop son rôle, mais si on l'élargit, si on le voit tel qu'il est, oui, mais ce que tu dis, moi je verrais très facilement que Marie aussi est là pour à l'accomplissement d'Israël. Saint Paul parle de l'accomplissement d'Israël à l'heure où Israël reviendra, à l'heure où il est en ce moment, bon. Il a sa mission et qu'il se réalisera, l'unité se réalisera lorsque Israël lui-même aussi entrera dans, et peut-être qu'à la fin des temps. Mais Marie, pourquoi Marie n'intervient pas effectivement, comme tu dis, puisqu'il y a un signe là aussi de, ce serait à fouiller, ce serait peut-être ce que tu annonces là est important, ce serait peut-être à voir effectivement quel est le rôle de Marie aujourd'hui dans l'écuménisme même judéo-chrétien et peut-être même en plus large encore dans l'islam. Elle est aussi là dans, Marie ne peut pas ne pas être là où il y a un combat humain, eschatologique. Elle est la reine. Amen. Et puisqu'on commence, puisqu'on n'avait pas fini sur Saint François, je veux, avant d'aborder l'autre partie qui était une réflexion que je voulais vous donner sur les anges déchus. Eh bien, vous connaissez très bien, je ne vais pas relire puisque vous le connaissez, le grand événement que François a vécu quand il était à l'Ermitage de l'Alverne. 2 ans environ avant de rendre son âme au ciel, où il fut favorisé de la vision extraordinaire d'un homme qui avait l'apparence d'un séraphin, de Tetzizel, et qui se tenait en face de lui dans les airs. Il était attaché à une croix, les bras étendus et les pieds joints. Et 2 ailes s'élevaient au-dessus de sa tête, 2 autres restaient déployées pour le vol, et les 2 autres lui voilaient le corps. Cette apparition avait plongé le serviteur du Très-Haut dans un profond émerveillement. Et alors il éprouvait à la fois une grande joie de sentir ce regard bienveillant peser sur lui, et il se leva à la fois triste et joyeux, parce que, on peut dire, la douleur et la joie se succédaient en lui. Il s'efforçait de comprendre cette vision. Bien. Alors ses mains et ses pieds semblaient être transpercés en leur centre par des clous dont la tête apparaissait dans le paume des mains. C'est ça la crucifixion de François, qui est très extraordinaire, puisque les saillants étaient de l'extérieur sur ses mains et qui faisaient des bourrelets. Alors, voilà, à partir de cet événement, Saint Bonaventure, qui avait des difficultés avec son travail à l'intérieur de l'ordre, pour remettre un peu de l'ordre dans tout ça, était fatigué. Puis un jour, ils décidèrent d'aller se reposer. Il alla à l'Alverne. Et quand il était à l'Alverne, il a réfléchi. Et puis, cette vision, la crucifixion, la stigmatisation de François a travaillé quand il était là-bas. Et puis, il a fait un travail tout à fait extraordinaire. Enfin, une idée lui est venue de décrire le séraphin avec ses six ailes pour en faire un chemin de vie spirituelle. Alors, moi, j'ai fait une étude là-dessus, mais c'est pas cette étude qu'on va faire parce qu'on fait autre chose. Il a donc conçu une compréhension. Il a essayé de trouver une compréhension de François. Et quand le cardinal Joseph Ratzinger, qui devient le pape Benoît XVI, il a repris l'étude que, selon saint François, comment Bonaventure, en réfléchissant sur l'Alverne de cet événement, en est arrivé à penser que François était présent, annoncé dans l'Apocalypse. Il faut le faire. Hein. Penser que François, effectivement, que l'Apocalypse annonçait François. Et comment? Et alors, c'est là que il a fait ce travail assez extraordinaire. Dans l'Apocalypse, le chapitre, ben je ne l'ai plus, c'est plus c'est. Quel chapitre, je m'en souviens, 10, 12, monsieur, 10, 11.
La vision
du sixième, c'est le sixième sceau, où il y a quatre anges qui se tiennent aux quatre coins de la terre, créent un grand calme, en retenant les quatre vents, et un autre ange, à ce moment-là, monte de l'Orient, avec le sceau du Dieu vivant. Il ordonne l'arrêt des fléaux jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu, au nombre de 144 000, soient marqués du sceau de Dieu. Alors, il lit ce passage d'Apocalypse et il se met à réfléchir en disant, mais en fait, ça correspond à la vie de François. François n'est pas celui qui est l'ange porteur de ce sceau, du fait qu'il avait coutume, lui aussi, de signer ses lettres par le signe du taux. Et d'autre part, c'était un premier événement qui pouvait faire penser qu'effectivement, il était celui qui portait le sceau, puisqu'il faisait le sceau sur ses lettres. Et puis deuxièmement, après le signe du taux, mais l'événement de la stigmatisation, c'était aussi le Christ donc crucifié qui avait imprimé le signe de Dieu vivant sur le corps de François. Voilà deux raisons qui l'ont amené en disant, mais enfin, François, ben, il est celui qui, en fait, cet ange du sixième sceau qui porte le sceau qui annonce le sceau du Dieu vivant. D'autre part, le juste dans ce passage de l'Apocalypse, on parle donc du sceau de Dieu, de ce sceau-là, qui va marquer 144 000 élus des 12 tribus d'Israël. Alors, voilà bien qu'il fait encore un autre travail en disant, ben voilà, mais ces 144 000, mais qui c'est? Mais c'est la communauté de François. Donc, il arrive à dire ben, que le François est celui qui a été choisi, c'est celui qui porte le sceau du Dieu vivant, qui a créé une nouvelle communauté, la communauté de la fin du monde, et cette communauté est la communauté des franciscains. Et alors, je pense que le monde franciscain a dû être quand même assez heureux d'apprendre que on était les premiers, les derniers maintenant. Peu importe aux jésuites, peu importe aux dominicains. Mais ça s'est resté quand même, c'est resté, hein, dans le, dans, disons, la conscience quand même franciscaine d'être une société, une communauté qui a été la communauté du dernier temps, la communauté c'est pas les seuls, je crois, parce que dans l'Église, il y en a quand même pas mal qui ont été pensés que c'était la communauté du dernier temps. Mais en même temps, parce que là, on a comme emblème de cette communauté, François, qui est, par lui-même, parce qu'il représente, peut effectivement être assimilé au ange, à cet ange qui monte, porteur du sceau du Dieu vivant, et aussitôt après, cette communauté des 144 000 qui vont recevoir ce sceau et qui vont donc être des élus. Bon, voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour François.
Le livre de Benoît.
Comment ?
Le titre du livre de Benoît, quand il est sorti, c'est
Alors, ce livre, alors maintenant, le saint, aujourd'hui le pape, alors, quand il dit Ratzinger, il a fait un travail sur le sens de l'histoire, une théologie de l'histoire. Et dans ce travail, il a pris ce moment-là parce que pour travailler, il a fait une thèse là-dessus. C'est un travail qui est un peu difficile à lire, mais enfin, si ça vous intéresse, je pourrais vous donner les références.